Alors, nous passons au prochain orateur. C'est le professeur Bernard Delpal, comme ça a été dit déjà par François, professeur à l'Université de Lyon, spécialiste de l'histoire des idées et courants religieux. Il a d'ailleurs déjà parlé lors du dernier colloque, puis là il avait parlé sur l'univers spirituel de Dunant et de Moynier, et nous nous réjouissons beaucoup de l'entendre maintenant. Je vous en prie, monsieur le professeur.
Alors je suis très impressionné de parler à la suite de François Bugnon, qui a été excellent. Et je profite de cette circonstance pour le remercier publiquement. Je lui dois, au mois de juillet 1995, alors qu'il avait de hautes responsabilités juridiques au sein du CICR, d'avoir été un des premiers chercheurs français autorisés à travailler dans les archives du CICR. Et nous nous sommes tous reconnaissants d'avoir facilité l'ouverture de ces archives et de nous avoir donné des permissions dont nous espérons avoir fait un bon usage. Oui, je vais un petit peu continuer dans le prolongement du travail effectué par François Bugnon à propos du souvenir de Solferino. J'avais intitulé mon exposé « Quand le récit fait événement », la genèse du souvenir, il vaudrait mieux employer un terme plus contemporain, dû à un certain nombre de chercheurs, la génétique, hein, c'est-à-dire comment une œuvre littéraire se construit, évolue, et dans le rapport que l'écrivain a avec son texte, ou manuscrit, ou imprimé. Au fond, le souvenir de Solferino est une œuvre difficile à caractériser. Et depuis hier, nous voyons bien que plusieurs expressions nous viennent à l'esprit. Récits historiques, essais littéraires, fictions, chroniques humanitaires. En général, pour se tirer d'embarras, on lui assigne un rôle historique important, celui d'être à l'origine de la Croix-Rouge. Mais on n'a pas réglé toutes les questions et l'auteur, Henri Dunant, ne nous aide guère dans ses mémoires, et ça a été rappelé à l'instant. Il dit de son texte qu'il a été inspiré par le souffle de Dieu, ce qui force le respect, mais ne facilite pas la tâche de l'historien. Il lui assigne également une destinée exceptionnelle, transformer une émotion en une secousse pour l'humanité. Évidemment, nous savons bien, je ne vais pas fabriquer un faux suspense, il a pleinement atteint son but. Mais quand même, l'envie est grande de connaître la génétique, c'est-à-dire les techniques, les procédés qui ont permis à cette œuvre, en donnant une valeur considérable à une bataille, une valeur reconnue, d'en faire un événement. Et nous savons depuis Braudel qu'il n'y a pas d'événement sans récit, et même, ai-je envie d'ajouter, sans récit littéraire. Et un événement référence depuis 150 ans, et une référence toujours vivante. Pour certaines œuvres du XIXe siècle, comme Madame Bovary ou Les Misérables, par exemple, nous avons la chance de posséder le manuscrit de la première édition. Sur Gallica 2, vous pouvez feuilleter le manuscrit de Madame Bovary, avec d'ailleurs des annotations qui n'ont jamais été publiées, tellement elles sont érotiques. On possède, malheureusement, il n'en va pas de même pour Dunant, le manuscrit conservé à la Bibliothèque générale, à la Bibliothèque de la ville de Genève et qui a été mis en ligne, je pense, pour faciliter les travaux actuels du 150e. Ce manuscrit a été recopié, il est presque parfait dans sa forme, dans sa présentation, comme on peut le vérifier sur son écran d'ordinateur. Mais il se situe entre la fin de la deuxième vague et le début de la troisième vague, pour reprendre la chronologie établie par Roger Durand dans son article, sa recherche de référence, publiée en 1980. Pardon, les deux manuscrits d'un souvenir de Solferino. Donc nous savons que le manuscrit disponible et consultable en ligne aujourd'hui est un manuscrit tardif dans le processus. Mais nous savons également qu'à partir de la première édition de 1862, donc, fin octobre, début novembre, le souvenir a été sans cesse remis sur le métier par Henri Dunant lui-même. À défaut d'une génétique depuis le moment origine, on peut pourtant tenter, après la première édition, un travail, par chance. La bibliothèque possède, dans la liste très impressionnante des éditions du XIXe siècle, établie par Philippe Mollier, un exemplaire de la troisième édition annotée et corrigée de la main même d'Henri Dunant. Et, lorsque je suis venu travailler cet été, la bibliothèque m'a informé que cet exemplaire allait être mis en ligne. C'est fait. Vous pouvez consulter cet exemplaire. Donc, cet exemplaire qui est, je cherche la référence précise, Un souvenir de Solferito, 1863, in 16, un primerifique, 170 pages. Donc, cet exemplaire en ligne comporte des corrections de la main du nom, quatre types de corrections, quatre couches, au crayon bleu, au crayon rouge, au crayon de papier et à la plume, à l'encre. Quatre couches, c'est une sorte d'archéologie qui devient possible en consultant ce très précieux exemplaire. C'est donc à partir du travail que j'ai fait sur cet exemplaire que je vais vous présenter un certain nombre d'observations, en vous priant d'être indulgent. Hein, c'est un travail en cours, work in progress. Hein, ça demandera à être complété, et en particulier en utilisant d'autres sources de Dunant lui-même, des manuscrits français 2011 qui sont également numérisés et sur lesquels j'ai commencé à travailler, où Dunant parle de son travail d'écriture. Donc les corrections effectuées par Dunant, puis je vous dirai après quelques mots sur la contextualisation, les interprétations que l'on peut tenter. Ces suppressions, j'en ai retenu quatre types. Suppression de passage ou renvoi en note, il y a tout un jeu subtil de bascule entre le texte principal et les notes de bas de page. Alors, évidemment, quand je repensais aux conseils que nous donnons à nos étudiants pour un master, aujourd'hui, la règle, la convention universitaire veut qu'une note de bas de page soit réservée à des références manuscrites, imprimées, ou des termes très techniques d'explication sans lesquels le texte principal serait moins bien compris. Henri Dunant se moque de ces conventions universitaires. Les notes de bas de page peuvent être des développements. Par exemple, on trouve à la fin de la troisième partie une note sur Florence Nightingale, qui est d'ailleurs rageusement barrée dans l'exemplaire dont je vous parle, qui réapparaît ensuite. C'est un texte vivant, qui est perméable aux émotions de l'auteur, à l'environnement social aussi. Il y a une sorte de plasticité que l'on saisit tout de suite dans la manière dont Dunant utilise les notes de bas de page et le texte. Donc je vous donnerai quelques exemples de cette première série. Deuxième série de corrections et d'ajouts, ce que j'ai appelé l'emploi des clichés, des idées reçues, l'idée reçue dans le Gotha européen, c'est-à-dire dans le lectorat de Dunant. Hein. Combien ? 1000, 2000 personnes, dont on retrouve les noms d'ailleurs dans les exemplaires ultérieurs, lorsque Dunant surveille avec beaucoup d'attention la formation des comités de secours dans les différents pays d'Europe. Il y a même des exemplaires où il raye des noms et où il en ajoute, comme s'il avait encore la haute main en 1870 sur la formation des sociétés de secours. Troisième catégorie, une série de clichés, de scènes. Je reprendrai la perche qu'a tendue François Bugnon tout à l'heure, d'images cinématographiques. Hein. Le souvenir de Solferino est à la fois mythogénique, il fabrique des mythes positifs, mais photogénique aussi. Et alors, il y a toute une série de corrections ou d'amplifications destinées à mieux faire ressortir les violences de guerre. Et puis, quatrième série, de correction ou de validation, puisque ce travail, il le fait probablement entre mars et avril 1863. De clichés positifs, où il crée des modèles, par exemple, où il effectue tout un travail de gentrisation, comme on dirait aujourd'hui, pour bien nous mettre dans l'esprit que la compassion est féminine et que le grand courage de la société civile ce sont les femmes qui sont porteurs de ce courage-là. Hein. Et c'est par les femmes que la société civile va évoluer. Il l'écrit d'ailleurs en toute simplicité. Il mise sur les femmes pour faire bouger la société civile civilisée, autrement dit la civilisation civile européenne. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Le monde, c'est l'Europe. Donc, je vais reprendre quelques exemples de ce travail d'enrichissement, de correction, qui n'est jamais gratuit. C'est toujours destiné à faire ressortir, à utiliser un argument, au contraire, à en abaisser un autre, ou à opérer des équilibres. Voici, par exemple, page 33. Il supprime une note abondante sur les cantinières. Les cantinières qui donnent à boire, et ajoute-t-il en note, ces cantinières. Il donne l'impression d'avoir suivi le destin de ces cantinières. Ce sont peut-être celles qui ont été brûlées par les Mexicains le 9 janvier 1862. Évidemment, c'était hardi, probablement, sans aucun argument historique. Il se rend compte que c'est ou bien inutile ou bien dangereux, et qu'au fond, la présence des cantinières sur le champ de bataille italien suffit à sa démonstration. Il supprime également beaucoup de passages qui sont trop complaisants envers les états-majors et les officiers, les commandants, les chefs de corps. Il supprime notamment, page 36-37, une longue note où il racontait comment ses généraux soupent ensemble en 1859, puis s'écharpent à nouveau et à nouveau dîneront ensemble. Évidemment, c'était un argument extrêmement dangereux. Il laissait croire, il pouvait laisser entendre dans le public, bien que le public soit encore très limité, on n'en est pas aux éditions populaires de la fin du XIXe siècle, laisserait entendre qu'il y a collusion entre les chefs de guerre et uniquement victime parmi la piétaille. Il supprime également beaucoup de notes, pratiquement toutes les notes de l'édition numéro 1, pour supprimer donc les références au Premier Empire ou à la première bataille de Marengo, page 68, toute la note 1 saute, ou à la Crimée ou à l'Algérie. Il valait mieux qu'il supprime ces notes parce qu'en général, elles font l'éloge par exemple de Trochu. Or, Trochu fait partie des véritables bouchers de la pacification en Algérie. Avec Lamoricière et Bugeaud, aujourd'hui, il relèverait du tribunal pénal international. Donc peut-être qu'Henri Dunant s'en est rendu compte, en tout cas, il supprime. Il supprime également tous les passages qui discréditent ou déversent trop d'éloges sur l'un des deux camps. Je n'y reviens pas, ça a été dit tout à l'heure, souci de l'équilibre. Il supprime aussi un certain nombre de passages que j'appellerais des clichés de guerre. Par exemple, une longue note 1, page 61, sur les doigts coupés. Alors les doigts coupés, c'est un des grands clichés de l'épouvante sociale du 19e, mais aussi du 20e siècle. En l'occurrence, dans le récit qui a été supprimé en mars 63, il fait état d'une pratique des Français. Lorsque les Français attrapent des Croates, ils leur coupent les doigts. C'est la punition infamante du voleur, du massacreur. C'est aussi un acte de barbarie. Couper des doigts, c'est barbare. Alors on le sait. On sait très bien, quand on veut dire du mal des talibans, on dit qu'ils ont coupé les doigts des voleurs. Ou bien quand on veut montrer le danger de la charia, on dit bien, on a rétabli la charia. Il y a telle ville, dorénavant, on va couper les doigts des voleurs. Ce cliché de l'horreur de la guerre a eu une longue destinée. On le retrouve pendant la Grande Guerre, largement utilisé dans la presse française. Vous savez, le sommet, c'est l'officier prussien qui rentre dans une église, qui trouve une fillette en prière, première communiante, elle a les mains jointes, et l'officier prussien sort son sabre et d'un geste sec coupe les deux mains et... Un certain nombre de témoins ont recueilli les deux mains coupées autour desquelles restait entouré un chapelet. Tout le monde y a cru en France, au point qu'en 1919, la France a intenté une action internationale pour faire condamner l'Allemagne pour barbarie. Alors, il y avait des milliers de témoins, on n'a jamais pu trouver un témoignage écrit, vérifié, de cet acte de barbarie à laquelle toute la France a cru. J'ajoute que ce souvenir du doigt et des mains coupées a ressurgi, comme l'a très bien montré Marc Bloch, en 1940. Donc, vous voyez, il en est pleinement conscient dans une longue note de la page 91, qui a été supprimée ensuite. Il rappelle qu'il y a un décalage entre les faits et ses propres souvenirs. Donc, en gros, l'avertissement d'Henri Dunant, c'est qu'il utilise des clichés dont il n'a pas forcément mesuré la véracité, mais peu importe. Après tout, l'historien n'est pas là pour établir la vérité, mais la vraisemblance, nous a appris Paul Ricoeur. Il faut qu'un récit soit vraisemblable. Or, son récit, ses ajouts, ses corrections, augmentent la vraisemblance de cette première partie que François Bugnon nous a repérée. Deuxième série de corrections, les clichés sur les violences de guerre. Alors, dans ces clichés, il y a un certain nombre de clichés que j'appelle psychoethniques, c'est-à-dire qui attribuent un peuple, une catégorie, à un ensemble, des comportements liés à sa propre génétique. C'est-à-dire la génétique du récit épouse la génétique sociale prêtée. Exemple. Les tirailleurs algériens, ce sont des gens féroces dont, page 21, aucun chef ne peut calmer la férocité. Vous voyez, ce sont des êtres hors de l'humanité, effrayant à cause de cela. Ils achèvent les mourants, page 21. Les Français, ils ont l'esprit gaulois vif face au danger. Les Autrichiens, ils sont peureux, ils craignent les amputations. Les médecins italiens, ce sont des médecins, finalement, qui ne savent pas faire grand-chose, ils ne savent que saigner ou purger au tamarin, c'est-à-dire c'est la fameuse tamarine. Autrement dit, il renvoie les médecins au cliché de Molière, l'avaré, seigneuré, purgaré. On est très loin de la réalité. La médecine et la chirurgie ont fait de grands progrès. Je n'y connais strictement rien, mais je suis persuadé que la médecine italienne en 1859 ne se contente pas de laver, saigner et purger. Je vais vous donner un exemple précis de correction par Dunant, d'atténuation des excès de cette ethnopsychologie. Page 31, il s'agit du long récit d'une attaque de Colline par des tirailleurs algériens. Voici la première rédaction. Ils viennent d'apprendre que leurs chefs, ceux des officiers qui les emmènent, ont tous été abattus par la défense autrichienne. Cela redouble leur fureur. Première rédaction. Cela redouble leur fureur. Ils s'excitent à venger leur mort, c'est-à-dire des chefs, et se précipite avec la rage de l'Africain et le fanatisme du musulman. Africain A majuscule et musulman M majuscule. Ce sont donc deux catégories. Sur leurs ennemis qu'ils massacrent avec frénésie et comme des tigres altérés de sang. Voici la deuxième rédaction, donc cette fois à l'encre, à la plume en marge, le tout est enrayé, il utilise tous les signes conventionnels de l'imprimerie pour repérer toutes ces corrections. Ce qui redouble la fureur des Rouges, alors la Rouge ce sont les tirailleurs ou les turcos en veste rouge, qui en faisaient d'ailleurs des cibles idéales. Il n'y avait pas de casque, hein. Les soldats s'excitent à venger la mort de leur chef et se jettent sur l'ennemi comme les tigres altérés de sang. On a fait disparaître la référence à l'Africain et aux musulmans. Bon, je prends cet exemple. Alors, il y en a bien d'autres encore. Les Croates violent l'asile des ambulances improvisées. Tandis qu'on oppose, à la page suivante, la bravoure serbe qui ont 3 généraux blessés. Vous voyez, là aussi, ils creusent le sillon d'une opposition qui en France continue encore aujourd'hui. Hein. Le Croate, c'est l'Oustachi, et le Serbe, il faut mieux, vous savez, le Serbe, c'est l'allié de protégé de la France. Enfin, les Lombards, les paysans, les civils, les Croates, les tirailleurs algériens ont tous en commun de dépouiller les blessés et les morts. Quelquefois, ils dépouillent les blessés avant qu'ils ne soient morts. Autre cliché, cette fois sur les violences de guerre en général, il emploie un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des shortcuts à la Robert Altman. Voilà quelques-uns qu'on retrouve ailleurs, chez Victor Hugo ou chez Tolstoï dans ses récits de Sébastopol en 1855-56. Page 34, il ajoute un épisode, le chien blessé en même temps que son maître. Le chien est blessé, il se traîne pour aller mourir sur la tombe de son maître. leçon terrible, c'est-à-dire que l'animal a plus de reconnaissance que l'être humain. Ou bien encore, page 57, il ajoute un développement sur les morts, la rictus des morts, la terre dans la bouche, la fosse commune, les cadavres qu'on découvre, qu'on enterre, quelquefois même, on enterre des blessés vivants. Alors ça, c'est une des grandes paniques sociales européennes. Notre collègue Anne Carole de l'Université d'Aix-en-Provence a consacré un livre entier à la mort et au traitement de la mort au XIXe siècle. La peur des peurs, c'est d'enterrer, de mettre en bière quelqu'un qui vit encore. Donc, bien entendu, il ne l'a pas vu, mais utiliser ce cliché, ça déclenche quelque chose dans toute la société européenne. Une société qui enterre quelqu'un qui n'est pas mort est une société qui ne va pas bien. Exact. Il utilise également des épisodes très très violents pour montrer la violence de la guerre. Par exemple, page 61, le récit de la sentinelle punie. Alors c'est aussi un argument que l'on trouve, un argument littéraire de guerre, dans l'historiographie dont parlait M. Bignon à l'instant, qu'on retrouve ailleurs. Voilà, en gros, les Autrichiens préparent l'assaut d'une position italienne, sarde. Ils réussissent leur coup parce que la sentinelle ne les a pas détectés, elle somnolait. Alors ils réveillent la sentinelle et pour la punir de n'avoir pas fait son travail de sentinelle, ils lui crèvent les yeux. Alors, récit que Dunan reprend à son compte. Qu'il reprend à son compte. Je veux dire par là qu'il utilise cet argument pour bien montrer la violence de guerre. Autre utilisation importante, les corbeaux, les yeux crevés, les rapaces, la vermine, les corps verdâtres, ça aussi, ça fait partie d'un ensemble argumentaire, nom, épithète, construction de la phrase, qu'on le retrouve ailleurs, pour montrer l'abandon terrible qui frappe ceux qui étaient de brillants combattants dans la première partie et qui finissent d'une manière misérable ensuite. Mais il y a à côté un certain nombre de corrections, d'ajouts, qui sont ce que j'appelle l'ensemble des clichés positifs ou des idées reçues positives, dont, dans un certain nombre de cas, Dunan est à l'origine. C'est lui qui contribue à fabriquer ces clichés qui vont avoir une grande destinée. Je les regroupe sous la rubrique « Humanisme, compassion, don des larmes ». Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que si l'on a bien suivi l'excellente présentation de François Bignon sur l'architecture, le fait de passer d'une partie à l'autre permet de changer de genre. Et je suis frappé par le fait que dans une première partie, par exemple, les hommes sont héroïques, mais ils trouvent ce qu'on appelle dans la littérature arabe le don des larmes dans la deuxième ou la troisième partie. Les mêmes empereurs qui électrisent leurs troupes, à l'exemple du roi de Piémont-Sardaigne, pleurent devant le désastre accompli. Page 40, l'empereur, François-Joseph, ne peut s'empêcher de pleurer devant ce désastre transporté de douleur. Et puis, il a un dernier, alors ça c'est très émouvant parce qu'on voit qu'il a d'abord validé, puis il supprime, il raye de pleurer devant ce désastre. Il a eu envie de l'écrire, puis au dernier moment il s'est retenu. Un empereur ne peut pas pleurer. Mais pourtant il nous laisse entendre que l'empereur est proche des larmes. Il utilise également des procédés que j'appellerais évangéliques. Il utilise de nombreuses scènes où on tend une éponge humide aux lèvres du mourant ou de l'agonisant, qui évidemment rappelle la compassion de l'Évangile. Mais peut-être il y a un véritable pilonnage autour de la féminisation de la compassion. Page 78-79. Il déplore qu'il y ait des infirmières improvisées, mais il corrige en ajoutant que ce sont de gracieuses jeunes filles remplies de douceur, leurs beaux yeux pleins de larmes. Il fabrique, alors peut-être il pense à la Vierge Marie qui étend son manteau, hein, qui est un des grands, pas lieux communs, mais qui se répand en Europe depuis 1854. Il utilise la comtesse Brona, aristocrate de Brescia, qui se spécialise dans le secours aux amputés, dans une sainte abnégation et en disant « Sono madre ». Donc, la mère, la femme, page 140. Il insiste sur ces belles patriciennes rendues plus belles encore par leur exaltation et leur enthousiasme passionné, leur larme brûlante de compassion qui vient de se transformer en un dévouement chrétien et rempli d'abnégation. On est un peu à la croisée des chemins. L'élément féminin, la compassion, le sentiment chrétien, l'abnégation et la réussite pratique, si je puis dire, car ces femmes sont très efficaces. Il aborde également un des problèmes essentiels de la guerre, c'est la relation entre le combattant et l'arrière. Et il introduit, par exemple, un épisode très intéressant, une grande dame de Milan qui rencontre un blessé, elle apprend que la famille du blessé est dans le Gers, bien, elle fait ni une ni deux, ça va de soi, elle prend le train, elle vient dans le Gers, elle trouve la famille, elle emmène la famille, elle reprend le train, heureusement le blessé n'est pas mort pendant l'aller-retour, et la famille peut parler. Bon, il développe aussi, il ajoute une note qu'il supprimera après sur les nobles légions de généreuses infirmières conduites par deux saintes femmes, Hélène Plovna et Florence Nightingale en Crimée. Bon, plus tard, il insiste sur le fait que Florence Nightingale est là, a atteint une notoriété populaire, mais il supprime sa note. Page 167, peut-être agacé de mauvais rapports avec elle. Enfin bref, on sent qu'il y a là quelque chose de très vivant. Très intéressante aussi, son recours aux touristes. J'ai été frappé par l'irruption du touriste. Page 80, il énumère une série de touristes qui viennent de plusieurs pays, mais des touristes anglais, des touristes belges, des touristes suisses, c'est évidemment pas innocent. Alors le touriste, c'est pas le touriste d'aujourd'hui, bien sûr, c'est plutôt le touriste de Stendhal, hein. C'est l'homme cultivé, qui est fortuné, qui a du temps, qui rencontre d'autres touristes. Il y a une société du tourisme dans ces années 1850-1860 en Europe. On est dans l'entre-soi. Eh bien évidemment, ça n'est pas pareil. Ce n'est pas innocent que ces touristes-là participent, prêtent la main aux volontaires sur le champ de bataille, à côté des femmes. Hein. Il y a là une sorte de proximité, de collusion intéressante entre les deux. Alors, pour terminer, je voudrais peut-être élargir l'emploi de ces corrections, de ces notes de bas de page qui apparaissent, qui disparaissent, pour insister sur la plasticité, la perméabilité, la vie interne de ce texte, hein, que nous avons du mal à repérer, mais dont nous sentons bien que sa notoriété s'est construite grâce à des couches, des emplois successifs. Alors j'ai commencé, j'ai fait ça hier après-midi, donc c'est tout frais, mais j'ai voulu comparer écran contre écran, puisque la Bibliothèque de Genève a fait un travail considérable, cette version corrigée manuscrite du début de 1863 à l'édition Hachette de 1870. Et là, surprise, les notes ont disparu. Au prix d'une grande sélection, elles ont été incorporées au texte, qui a été réécrit, réaménagé, et il a ajouté, alors là évidemment on est dans le poste, comité et post-convention de la Croix-Rouge, il a ajouté évidemment la construction de la Croix-Rouge et une liste des sociétés de secours. On a changé de nature du souvenir de Solferino. Maintenant, son destin est lié à la Croix-Rouge. En mars 1863, on est dans l'émotion, dans l'appel à la société européenne. Alors, est-ce que il est un solitaire du nom? Non, je pense qu'il se... Il rentre dans un mouvement plus vaste que lui, auprès duquel il trouve des arguments, des complicités, des amitiés, des renforts. Par exemple, l'idée qu'il faut construire, en même temps que se développe un mouvement des nationalités, qu'il ne conteste pas, qu'il faut construire une sorte de patrie universelle, de conscience universelle. Cela, on le trouve, par exemple, dans l'exposition de Londres de 1851. Suivons les expositions universelles, nous trouverons des textes qui pourraient être signés du nom. Et je pense notamment, alors on a un peu moqué tout à l'heure Victor Hugo, bon, très bien, Quoique dans Les Misérables, vous avez une charge de cavalerie très célèbre dans le chemin creux de Hain, dont peut-être Dunant s'est inspiré quand il montre la violence de la bataille au moment où les sabots des chevaux écrasent les crânes des soldats. Jusqu'à ce que les chevaux... Alors, la différence entre Victor Hugo et Dunant, entre le chemin creux de Hain et le souvenir de Solférino, c'est qu'à un moment donné, les chevaux de Dunant deviennent intelligents et compassionnels. Ils font attention, dit Dunant, de ne plus marquer, de ne plus poser leurs sabots. Alors que chez Victor Hugo, alors, c'est le torrent qui s'écrase dans le chemin creux de Hain. Mais il y a un texte de Victor Hugo tout à fait extraordinaire qu'il avait écrit pour l'exposition de Paris 1855, mais comme... Il est un opposant intraitable à l'Empire et au coup d'État de Badinguet. Il refuse de donner son texte pour l'exposition, qui finalement sera publié plus tard, à l'occasion de l'exposition de 1867, sous le titre « Le guide parisien de l'exposition » est publié en 1869, où on trouve des morceaux sur la République qui doit se construire, la République universelle, si j'en ai un. Est-ce que j'ai le temps de lire ? Oui, non. Non, alors non. Alors donc, tant pis. Ça sera peut-être la discussion. On trouve également des développements assez proches dans le groupe de la réforme sociale, Le Play, Charles Coup. L'idée que les progrès doivent bénéficier à tout le monde, à toute l'humanité, et ne pas être réservés à une petite élite. Sur le contexte littéraire, nous avons eu une extraordinaire communication tout à l'heure. J'ajouterais peut-être les peintres. Hein. Alors, je ne sais pas si. Si Dunant est amateur de peinture, mais probablement, puisqu'il fréquente des milieux parisiens, notamment Monseigneur Frappel, Trochu, Mac Mahon, qui protège Meissonnier. Meissonnier est ce peintre des batailles dont on a parlé tout à l'heure, qui fait ressortir la gloire des combattants par la foultitude des blessés. Mais surtout, je pense que c'est chez Dunant lui-même que l'on trouvera de quoi... approfondir ce travail sur la génétique toujours vivante, en tout cas, tant que Dunant est vivant, elle ne s'arrête pas. Ce travail de génétique rentre tout à fait dans les préoccupations des historiens d'aujourd'hui. Je pense à Paul Ricoeur dans « Temps, mémoire, récit » qui montre que, au fond, ce que nous croyons être l'histoire, c'est une construction... qui est produite par la mémoire collective, par nos sociétés, et qui doit énormément à la société dans laquelle on vit. Et faire l'archéologie d'un texte, c'est découvrir la société qui l'a produite, et la manière dont nous le lisons, la manière dont le texte est porté au cinéma. Monsieur Bugnon y a fait allusion assez sévèrement tout à l'heure, je crois à juste titre, mais tout cela nous renseigne sur des processus qui ne s'interrompent jamais, de construction, reconstruction de la mémoire et du récit historique. Je pense également à Pierre Nora, dont on parle beaucoup en France en ce moment, peut-être pour lui faire des procès qu'il ne mérite pas, à mon avis, mais qui a bien montré qu'une des fonctions de l'histoire, plutôt que de construire de la vérité, c'est d'être vérificatrice de la mémoire. Et il me semble que Dunant offre à tous ceux qui voudront bien travailler dans ce sens un merveilleux exemple à travers le souvenir de Solférino, de rencontre entre mémoire, histoire, société, capacité de se construire et de se reconstruire en répondant aux besoins, y compris aux nôtres aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce très riche exposé. Est-ce qu'il y a une discussion ? Est-ce que je peux donner la parole à quelqu'un ? Oui, je vous en prie.
Trois remarques, la dernière. Ah, monsieur Dunant. Monsieur Dunant, sur les Mexicains et les vivants en guerre. Elle est curieusement fabriquée dans la mesure où il dit qu'il y a des vivants d'hier sur le champ de bataille brûlés par les Mexicains. Alors, est-ce qu'il y avait des Mexicains sur le champ de bataille? Ou bien est-ce qu'elles ont échappé grâce à une carapace d'amiante à la crémation au sud de Mexico City? En fait, c'est ce qu'on appelle un synapse. mais qui est tellement mal fagoté que pour le lecteur saint, on a véritablement l'impression que ces femmes avaient échappé aux horreurs. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est les larmes des chefs de guerre sur les champs de bataille. Alors, il y a un cas qui est parfaitement connu, c'est au soir de Gravelotte-Saint-Frinois, en 1070. Le roi de Prusse, bientôt empereur, parcourt le champ de bataille avec Volpier, il monte son état-major, et pleure, sanglote, à chaudes larmes, dans l'arme des armes-leutes, des armes-leutes. Et la dernière, c'est la remarque concernant, mais elle est humoristique, concernant les doigts coupés. Il y avait une plaisanterie qui circulait en 70 à Paris, des petits parisiens, dans les faubourgs parisiens, les très mauvais goûts. La question était pourquoi les Prussiens capturés par les Turcos ou par les Zouaves ont les doigts sectionnés. Et la réponse était parce que les Turcos et les Zouaves ont des pantalons bouffants.
Voilà, je vous en prie. Est-ce que la première question, non?
Non, oui, sur le Mexique, juste une... Alors cette note qui est assez longue a disparu après, mais je crois que c'est un exemple d'incorporation au fond, hein, de plasticité, comme on l'a vu pour la case de l'oncle Tom. C'est-à-dire que ces grands récits qui, juridiquement ou non, sont maintenant du patrimoine de l'humanité, incorporent ce qui a été l'émotion des sociétés à l'époque. Et c'est vrai que cette horrible aventure mexicaine a eu des répercussions terribles en France, a suscité une désaffection énorme vis-à-vis de Napoléon III.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, une petite remarque concernant les doigts coupés. Je dirais le doigt coupé. On trouve dans pas mal de récits relatifs aux paysans, par exemple, ils ont un rôle de force avant la conscription obligatoire, ou même après, des récits qui attestent que le paysan s'est coupé le doigt. Parce que comme ça, il ne peut pas tirer, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y a une relation avec ça. À certains moments, on préférait se couper le doigt plutôt que d'aller à la guerre, ou plutôt que de rentrer dans l'armée. Et ça, c'est un aspect qu'on retrouve assez souvent, je pense, cette remarque dans les récits militaires.
Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a des questions peut-être encore? Sinon, j'aimerais encore une fois remercier M. le professeur et à toutes les oratrices et orateurs ce matin. C'était une matinée extrêmement riche. Et je redonne la parole à M. Durand, je pense.
Oui, alors, donc nous reprenons à 14h, ici même. Et puis, vous le savez.